Et bonjour à toutes et tous, c'est Alain Éperon qui nous accueille sur son stand au salon de Essen. Mais Alain Éperon, pour ceux qui ne le savent pas, bonjour Alain.
Bonjour.
Et le créateur de la société d'édition Croque-Nique-Douille, je ne sais pas comment on le dit.
Croque-Nique-Douille.
Alors déjà, ça c'est un nom vraiment pas habituel. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Croque-Nique-Douille ?
Pourquoi Croque-Nique-Douille ? Alors, Croque-Nique-Douille, c'est un surnom que j'avais donné à mon fils quand il était tout petit. Genre quand il faisait une bêtise, une petite bêtise ou un truc comme ça. C'était le sobriquet que j'avais inventé, que je lui donnais. Et comme au départ, je considérais que se lancer dans l'édition, c'était une grosse bêtise. Ça me semblait tout à fait approprié. Et voilà. C'était un clin d'œil pour mon fils et un clin d'œil par rapport à ça.
Okay. Au moins, on s'en souvient. Et au moins, si on s'en souvient pas, on sait que c'était un nom assez étonnant.
Donc, on va dire KND, pour, c'est plus facile.
Tout à fait. Alors, on est au troisième jeu qui est sorti chez Croque-Nique-Douille. On en parlera plus tard, mais donc, c'est Réjean qui est présenté sur le salon. Est-ce que c'est toujours considéré comme une bêtise par Alain Éperon ?
Considéré comme une bêtise, non. C'est devenu quelque chose de sérieux. Maintenant, il n'y a pas encore assez de recul pour dire que c'est viable à 100%. Et voilà.
Ça veut dire que c'était un pari au début ?
C'était un pari. Il y a des fois, la crise a des bons côtés. Où je travaillais, il y avait un plan social qui était en préparation. Mon avenir était plus ou moins menacé dans la société, donc j'ai pris les devants, j'ai négocié mon départ et puis je me suis lancé là-dedans.
Ça veut dire ?
Ça marche ou ça marche pas, voilà.
On est toujours à ce stade-là, c'est-à-dire la sécurité, on tâte le terrain.
On en est encore au lancement. Pour l'instant, il y a un mois de ça, la société était presque morte. Là, revit un peu. On attend les retombées des sons pour voir si est régente, pour voir si ça lance réellement la société. A priori, ça serait en bonne voie pour que la société perdure avec régente.
Ça veut dire que régente est vraiment le pivot de la société ?
Ça semble être effectivement le jeu qui va pouvoir lancer réellement la société.
Alors, donc ça s'est créé sur une passion du jeu. Quels étaient les jeux qui te passionnaient au départ pour te dire « tiens, j'ai dit très bien ».
Alors, ça remonte à des lustres. Je suis tombé dans le jeu de société moderne, on va dire, avec la Vallée des Mammouths, donc dans les années 90-91. C'était un des premiers jeux que j'ai acheté. Ça s'est rendormi un peu ensuite, faute de joueurs à côté de moi. C'est ressorti avec les Colons de Catan. En 95, où j'ai encore chez moi la boîte que j'avais achetée à l'époque, tout en allemand parce qu'il n'était pas encore sorti en France. Et puis depuis, ça a été pareil, ça s'est rendormi un peu faute de joueurs. Et là, ça fait 2 ans où j'ai intégré une association, où donc là, il y avait pas mal de joueurs. Et là, c'est reparti de plus belle.
C'est reparti le fait de jouer, mais on n'est pas encore à l'édition.
Le fait de jouer, mais à partir du moment où on commence à jouer beaucoup, on commence aussi à triturer les règles des jeux, à inventer ses propres variantes et de fil en aiguille à créer son propre jeu, qui n'avait strictement rien à voir avec Mammouth au départ. C'était quand même la base, mais c'était une histoire de Yeti dans l'Himalaya, mais qui ne tournait pas forcément très bien. Et il y a eu le déclic en regardant un film. Qui a fait que j'ai produit le jeu. À cette époque-là, il n'était pas question d'édition ni quoi que ce soit. J'étais auteur et j'allais prendre mon jeu sous le bras et aller chercher, essayer de trouver un éditeur.
Ça, c'est ce que tu as fait pendant combien de temps ?
C'est ce que j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait. Okay. Voilà. En fait, au départ, l'idée, elle était là. Maintenant, avant que l'idée se mette en place, c'est passé effectivement ce problème au niveau de mon entreprise, mon emploi, qui a fait que j'ai créé... J'avais un jeu, j'avais une somme d'argent à investir, j'avais un travail à me reconstruire, des choix à faire, j'ai fait le choix de partir dans l'édition. En sachant dès le départ que ça ne serait pas que de l'auto-édition. Donc, le premier, c'était de l'auto-édition, mais tout de suite, ça partirait sur d'autres auteurs.
Il y a eu un choix qui s'est fait, on se dit, est-ce que j'édite mon jeu, est-ce que ce sera mon premier jeu, ou bien est-ce que je cherche des jeux à éditer, ou c'était d'office Mammouth qui part en première ligne ?
Le premier, ça a été Mammouth, c'était un choix. Je ne voulais pas entraîner quelqu'un dans cette aventure, sachant pas où ça allait mener, ni quoi que ce soit. Donc foutre un auteur dans la merde, ça me paraissait pas forcément une bonne idée.
C'est pas un bon point de départ.
voilà, et puis c'est bon, et puis c'est pas honnête, voilà, c'était pas honnête, donc j'ai préféré me lancer avec mon propre jeu. Si je me plantais, au moins je me plantais tout seul, et puis voilà, j'entraînais personne dans là-dedans.
Ok, et donc Mammouth, on l'a dit, donc c'est un jeu d'Alain Épron. C'est un jeu où on chasse le mammouth, justement, donc c'est un thème préhistorique.
Voilà, on chasse le mammouth. En fait, l'idée de départ est venue d'un film qui s'appelle 10 000 baisers. Dedans, il y a une scène où le premier chasseur du clan a disparu, enfin est parti, a disparu, ils ne savent pas où il est, et il faut le remplacer. Et donc tous les jeunes chasseurs ont une épreuve à passer, qui est de tuer un mammouth tout seul. Et ça a été le déclic. Et c'est là-dessus qu'est parti donc le thème, où effectivement on va jouer un chasseur qui va devoir chasser le mammouth tout seul, et pousser le mammouth dans un de ses pièges pour remporter la partie.
Donc pour ce faire, effectivement, on a un plateau qui est fait avec des tuiles hexagonales qui va être évidemment différent à chaque fois. On a de la glace, on a des plaines et on a des rochers. Et on a à sa disposition des petites tuiles qui sont en fait des pièges à sa couleur. Et la mécanique du jeu est liée au fait qu'on va faire peur au mammouth et essayer de l'emmener dans un piège qu'on avait placé auparavant. Comment est-ce que c'est né cette chose? On pourrait essayer de le pousser en lui faisant peur, mais il fallait placer quelque chose avant.
Chasser le mammouth, en fait, j'ai essayé réellement de me baser sur la réalité, d'être au plus proche de la réalité. Une façon de chasser le mammouth, il n'y en a pas 36 000. C'est soit avec des lances, mais c'était compliqué à mettre en place, soit avec des pièges. Donc à partir du moment où on partait sur l'idée de mettre des pièges, c'était évident, il fallait mettre d'abord son piège et pousser le mammouth à l'intérieur de son piège. Après, ça a été toute une série de tests pour savoir quelle tuile il fallait, quelque chose. Donc il fallait des blocages pour pouvoir faire tourner l'heure. Il a imaginé un système de mouvement pour le mammouth, donc mettre des blocages pour permettre de faire changer la direction du mammouth. Donc là, sont apparus les rochers. Au départ, il n'y avait que de la plaine, mais c'était trop facile de poser ses pièges un peu partout. Donc faire différentes tuiles où on peut poser des pièges, d'autres où on ne peut pas, pour régler tout ça. Et après, ça a été des tests qui ont fait qu'il fallait tant de tuiles de ça, tant de tuiles de ça. Et il y a eu, plus de 200 parties de tests d'effectuer pour régler... au plus juste ça.
D'accord. Donc typiquement, on a placé le jeu, le mammouth se met au milieu sur une dalle qui est spécifique. Comment se passe un tour de jeu typique ?
Un tour de jeu, alors donc, au départ, chacun va se positionner autour du plateau, sur une case. Et un tour de jeu, on a une action à faire parmi quatre actions possibles. La première action, c'est de se déplacer. Donc pour ça, on a des cartes qui nous permettent de se déplacer. On a trois cartes en main. Et les cartes permettent de se déplacer d'une, deux ou trois cases, en fonction de la carte qu'on va jouer. Le déplacement va entraîner plein de conséquences derrière. C'est-à-dire que dès qu'on va pénétrer sur la case du mammouth, on va faire fuir le mammouth dans le sens opposé. Donc on va pouvoir déplacer le mammouth comme ça.
Et du même nombre de cases qu'on avait joué.
Même nombre de cases que la carte qu'on a jouée. Donc si on joue une carte de 3 cases, le mammouth va se déplacer. Nous, on se déplace de 3 cases et le mammouth se déplacera de 3 cases si on pénètre sur sa case. On peut se déplacer qu'en ligne droite. Le mammouth se déplace aussi qu'en ligne droite, hein, et on doit aller au bout de son déplacement, et le mammouth doit pouvoir aller au bout de son déplacement. Donc si on est gêné par un rocher, le mammouth est gêné par un rocher, il va prendre la première direction possible dans le sens de l'aiguille d'une montre, où il va pouvoir faire son déplacement de 3 cases.
Ça c'est le même cas, puisque le plateau a une limite, c'est le même cas aussi quand il est en bout de plateau.
Il est en bout de plateau, voilà. En fait, on imagine que tout autour du plateau, un peu comme dans la vallée des mammouths, qui est une de mes références, voilà, tout le tour du plateau, c'est des montagnes, donc on ne peut pas y aller.
Alors, il y a des choses assez exotiques, c'est-à-dire qu'on fait fuir le mammouth en arrivant sur sa case, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un adversaire qui est dans la direction du mammouth.
Alors, là, pareil, on se réfère à la réalité. On est un chasseur, on voit un mammouth arriver sur soi, un mammouth qui plus est apeuré, donc on n'essaye pas de l'arrêter, on se pousse et on laisse passer l'animal, et on se repositionne sur une case adjacente où on était.
C'est le joueur qui était dans le chemin du mammouth qui choisit où il va.
C'est le joueur qui se retrouvait face au mammouth qui choisit où il se pousse. Donc ça peut donner un avantage à ce joueur-là, parce qu'il va pouvoir se replacer idéalement par rapport au mammouth après.
Donc on l'a dit, il faut le pousser dans un mammouth, ça veut dire... On l'a dit, il faut le pousser dans un piège, donc ça veut dire qu'il faut avoir placé le piège avant.
Ça, c'est la deuxième action possible à son tour de jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser un piège, si on est tout seul sur une case où il y a de l'herbe, on va pouvoir poser un piège au lieu de se déplacer. Ce qui donne la troisième action possible, qui va être de retirer un piège. Donc de la même façon, si on est tout seul sur un piège, on peut retirer le piège, donc un de ces pièges ou le piège d'un adversaire. Généralement, plutôt le piège d'un adversaire, l'adversaire se chargeant de retirer les pièges, nos pièges. Et la dernière action, c'est on n'a pas de bonne carte en main ou on ne veut pas bouger parce qu'on se considère sur une position stratégique ou quelque chose comme ça. on va défausser une carte, on en pioche une autre, pour avoir toujours trois cartes en main.
Alors justement, c'est un jeu, on peut... Le thème est très fort et il y a une mécanique assez abstraite dessus. Dans les jeux de type abstrait, est-ce qu'on a vu apparaître des ouvertures typiques ou des manières de jouer pour lancer le jeu?
Non, je dirais qu'il y a quand même une stratégie. Il y a plusieurs choses à tenir compte. Ça sert à rien, par exemple, d'aller mettre ses pièges tout autour du mammouth. Tout simplement parce qu'après, il va falloir se déplacer avec des cartes de une case. Or, les cartes de une case, c'est celle qui a le moins. Donc on va passer son temps à piocher et repiocher. Qui plus on va être gêné dans ses déplacements, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il est beaucoup plus intéressant de mettre ses pièges d'abord loin du mammouth et de pousser le mammouth vers son piège que d'aller acculer le mammouth avec des pièges tout autour.
Une manière de prévoir justement les choses, c'est qu'on sait que le mammouth va se déplacer en faisant des aiguilles d'une montre. Donc,
tout est prévisible en fait, il n'y a pas le... La seule part de hasard qu'il y a, c'est la pioche des cartes. Sinon, tout le reste est entièrement prévisible. Alors c'est vrai qu'à deux joueurs, on peut beaucoup plus prévoir les coups à l'avance et programmer comme ça ces coups à l'avance. C'est vrai, alors qu'à quatre joueurs, on est plus dans un jeu d'ambiance où là, ça va être de l'opportunisme et arriver à attraper la bonne situation au bon moment.
Effectivement, voilà. Deux ambiances différentes en fonction du nombre de joueurs, c'est pas mal.
En fonction du jeu, voilà.
Okay. Quel est le statut que toi tu fais, Alain, sur Mammouth après, c'est quoi, c'est un an et demi qu'il est sorti?
Il est sorti en novembre 2009, donc ça va bientôt faire un an. A priori, il a trouvé son public, il se vend encore. Tous les mois, il se vend, donc bon, voilà. Il vit sa vie, ça ne fait pas partie des jeux inoubliables, ça ne fait pas partie non plus des ratés, c'est un jeu normal qui vit sa vie, donc il devrait... il va essayer de partir à l'international maintenant, c'est de conquérir son public à l'international.
Et c'est à ça que sert un salon comme Essen par exemple?
C'est un peu à ça que sert Essen effectivement, parce qu'on va pouvoir rencontrer des gens, des distributeurs étrangers ou des éditeurs qui pourraient être intéressés. Et puis de faire connaître aussi aux Allemands, aux Anglais qui n'ont pas pu le connaître avant. Quoi.
Donc, c'est ta première présence sur Essen en fait?
C'est ma première présence sur Essen. L'année dernière, je n'y suis pas allé, n'ayant pas le jeu de près, j'y suis pas allé. Donc c'est ma première présence sur Essen.
Ok, merci Alain. On se retrouve pour une description d'autres jeux plus tard. Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.